Voilà, on va prier pour ce temps de prédication où on va recevoir l'enseignement de la part du Seigneur pour cette semaine et toute cette année d'ailleurs, puisqu'on ouvre la nouvelle année. Et ce que j'ai pas dit, c'est que Michel et moi, on prend des congés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13, donc on sera là avec vous le 14. Mais voilà, on va partir en Bretagne pour... détendre un petit peu, parce qu'on avait tout cet été les petits-enfants. Et là, on va se reposer près de la plage. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Nous laissez conduire pour que, Seigneur, nous puissions être plus équipés, mieux équipés pour toi, pour l'avancement de ton royaume, te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le thème, c'est la fin, c'est une suite d'un message que j'ai donné début, j'ai commencé début août, c'est sur les vaillants hommes de David. Donc c'est un passage de l'Écriture dans l'Ancien Testament où on voit qu'autour des rois, que ce soit David, Salomon ou autre, il y avait des vaillants hommes, bon, c'est une sorte de garde, hein, un peu comme la garde... encore aujourd'hui existante en Grande-Bretagne, qui gardait le roi, enfin, qui évitait, vous savez, les rois sont ciblés aussi par les attentats ou autres. Donc il y avait une garde, et ça a toujours existé, et ils appelaient ça les vaillants hommes de David, qui couraient d'ailleurs devant le char du roi, ils étaient aussi rapides que les chevaux, c'est assez incroyable, pour pouvoir effectivement le garder, pour l'entourer, pour l'aider, à gouverner le pays. Donc, les vaillants hommes de David, la première chose qui est recommandée à des vaillants hommes qui veulent être autour de Jésus, hein, quand je parle du roi David, c'est maintenant Jésus, puisque Jésus est assis sur le trône de David. Hein, Jésus est le successeur de David, et il est assis dans les lieux célestes, il règne, et nous voulons le servir. Donc ces hommes qui doivent entourer particulièrement, de manière très proche, le Seigneur, dans 1 Timothée 2, 7, il est dit « Je dis la vérité, je ne mens pas ». Donc vous voyez, l'apôtre Paul, c'est rare qu'il donne cet élément de départ dans un verset, mais là c'est le cas de verset 7. « Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité ». Donc il nous instruit, de quelle manière nous instruit. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni pensée mauvaise ou ni mauvaise pensée. » Ensuite, les autres versets, hein, verset 9 et autres, il parle des femmes. Alors les femmes, il ne dit pas qu'elles doivent prier. Il n'y a pas de réponse dans la salle. Il le dit ailleurs. Hein, bon. Bien sûr, les femmes aussi doivent prier. Mais là, il insiste sur les points faibles, peut-être des femmes et des hommes. Le point faible des hommes, c'est de se sentir assez fort pour se débrouiller sans Dieu. Donc, la prière, c'est le recours à Dieu. Donc, il faut devenir faible, je dirais, entre guillemets, ce qui n'est pas le fort d'un homme, de devenir faible, parce qu'il doit être fort, etc. Mais voilà, c'est les vaillants hommes doivent prier, doivent être des hommes et des hommes de prière. Et les femmes, elles doivent, d'après Paul, donc, ne pas exciter les hommes de manière abusive par leur comportement, leur habillement, etc. Vous voyez. Bon, mais on prêchera ça sur une autre fois. Ces vaillants hommes, ils étaient, pour David, c'était 37. Ils étaient 37 vaillants hommes. Vous voyez, c'était pas une armée de 200 ou 20 000 hommes, c'était 37. Et parmi ces 37, il y en avait 3 qui se sont détachés par leur bravoure. Hein, et voilà, les 3, on les trouve dans 2 Samuel 23. Ce sont 3 capitaines les plus valeureux de David. C'est Joseph Batsebet, le Tachkémite, qui était l'un des principaux capitaines. C'était Adino, le Esnite, qui eut le dessus sur 800 hommes qu'il tua en une seule fois. Vous imaginez un guerrier qui, bon, il avait une grande lance, apparemment, il les a enfilés tous, 800, Voilà. D'un seul coup. Donc, vous voyez la bravoure de cet homme qui entourait David. Il était bien protégé avec ça. Le deuxième, c'est Éléazar qui se leva et battit les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle demeura attachée à l'épée. Non, c'est faux ça. Attachée à la main, oui. Elle demeura attachée à l'épée. Oui, la main est attachée à l'épée. C'est-à-dire que quand vous avez une épée, c'est des grandes épées, hein, toute la journée, il a bataillé contre les ennemis qui en voulaient à David, et sa main s'est attachée à l'épée. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il a souffert, mais il a continué la bataille parce qu'il avait un mandat de protection pour David. Donc vous voyez, c'est vraiment des hommes exceptionnels, de bravoure, de courage, de détermination, de persévérance. Et le troisième, c'est Shamma, fils d'Agé, Ararite. Et les Philistins s'étaient assemblés en troupes, et il y avait là une portion de champ pleine de lentilles. Vous savez, les lentilles, même chez les Israélites, n'avaient pas de valeur. C'est le blé, tout ça, mais bon, les lentilles, il y en a ici qui mangent les lentilles. Il paraît que c'est très bon, hein. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas le plat préféré si vous avez un anniversaire. Bon, je ne souhaite pas de présenter des lentilles à vos invités, mais bon, c'est délicieux pour soi. Mais voilà, présenter des lentilles à des enfants, vous allez voir, les plats vont pas partir. Hein. Mais il y avait ce plat, ce champ de lentilles, et le peuple avait fui devant les Philistins. Donc vous voyez, le peuple, voilà, il est couard, hein, il n'avait pas de courage pour rester. Donc paf, tout le peuple est parti. Et lui, Shamma, prit position au milieu du champ et le libéra et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante. C'est intéressant, ce verset, on pourrait faire toute une prédication dessus pour montrer que, vous voyez, la victoire éclatante du Seigneur se passe par un homme qui a le courage de prendre position pour un champ de lentilles. Et au passage, les prophètes qui, pour beaucoup, ont passé par chez nous, et non des moindres, eh bien, ils ont dit, vous êtes Shamma. C'est-à-dire, cette communauté est Shamma. C'est-à-dire, vous avez un plat de lentilles, c'est pas grand-chose, c'est une petite casemate, là, qui est un ancien théâtre casino, qui est devenu un temple. Eh bien, vous devez vous battre comme Shamma, parce que ce champ de lentilles qui a rien du tout, eh bien, il va devenir un phare. Vous voyez ? Donc, c'est toujours dans cette optique qu'on a reçu du Seigneur que même des choses insignifiantes, il faut se battre. Il faut se battre pour cela. Et le Seigneur leur accorda une victoire éclatante. Voyez-vous, cette collaboration entre le Seigneur et Shamma, c'est assez incroyable. Voilà donc les trois capitaines. Et ensuite, après, il y a 37 autres vaillants soldats dont on ne parle pas leurs exploits, mais qui étaient à côté de David. Eh bien, mes amis, ici, le Seigneur a commencé à mettre trois capitaines en place dans cette nouvelle génération, cette nouvelle assemblée de l'Église. C'est en 2023 où il a demandé un trio, surnaturellement, ne me demandez pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, Constant ne le sait pas non plus, il en fait partie. Un trio qui a prié, a commencé à prier. Et on a prié, malgré l'ambiance délétère dans laquelle nous étions à l'époque, on a prié. Et ces trois hommes prient encore, toujours aujourd'hui, toutes les semaines. Toutes les semaines, on se réunit pour prier. Et on ouvre, hein, pas uniquement rester trois, mais en tout cas, on peut être jusqu'à 37, hein, pour David, mais plus, pour que nous puissions tenir ce champ de lentilles. Hein, parce que le Seigneur nous l'a donné. Et s'il nous l'a donné, ça veut dire qu'il a du prix à ses yeux. Voyez-vous, c'est le fait toujours de se mettre à la place du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il pense ? Quelle est sa motivation ? Quel est son cœur ? Mais s'il nous a donné ça, alors que pendant 10 ans, ils ont essayé de le raser, ce truc-là, et le maire n'était pas d'accord. Ils ont essayé de le transformer, parce que l'architecte m'a expliqué, en garage à voiture. Ils ont essayé de le transformer pour des habitations. Ils ont tout essayé. Et pendant 10 ans, ça n'a pas marché. Et quand le Seigneur nous a montré, c'est celui-là qu'il faut acheter, le maire a dit, j'attendais ça. Voilà, je vous attendais. Je dis, bon, vous attendez, oui. C'est exactement ça que je voulais. Voilà, donc, vous voyez, on a vécu miracle sur miracle sur miracle sur miracle sur miracle pour être ici. Donc, c'est le champ de lentilles, peut-être insignifiant, mais le Seigneur va en faire de grandes choses, à condition que nous exercions la foi. Amen. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Et on a la faveur de Dieu. Alors ça nous a été confirmé par Aurel Duval, à Vidal, qui a passé il y a 15 jours, qui lui a dit, mais c'est pas possible. Il y a un ciel ouvert, là. Il y a une chape de plomb qui est partie, et tout ça, voilà. Et effectivement, on avait une chape de plomb, mais elle est partie. Par contre, il faut savoir la garder ouverte. Donc ça, c'est notre responsabilité. C'est la garder ouverte. Donc c'est bien, le Seigneur a ouvert cette chape, ce ciel ouvert, pour que nous puissions, que nos prières puissent être exaucées. Vous avez déjà expérimenté des prières qui retombaient à plat, qui retombaient au sol ? Quels sont ceux qui ont expérimenté quand on prie, on lutte, ça ne débouche pas. Voyez-vous, les vrais intercesseurs, ils connaissent tout ça. Hein, voyez, on expérimente des choses. Il y a des prières qui montent et qu'on sent qu'elles sont exaucées ou elles seront exaucées. Il y en a qui, voilà, on galère, etc. Mais aujourd'hui, nos prières vont être exaucées. Donc c'est à nous de nous y mettre. C'est notre responsabilité maintenant. Le Seigneur a ouvert là. Alors, pourquoi on appelle ça ciel ouvert ? Je vais donner juste un petit aperçu, parce que je n'ai pas le temps de développer. Vous voyez, il y a 3 ciels. La Bible nous parle de 3 ciels. Pourquoi 3 ? Parce que le 3e ciel, l'apôtre Paul y est allé. Il a dit, je suis allé au 3e ciel. Dans le 3e ciel, il y a Christ, avec les anges, qui ne se sont pas rebellés contre Dieu. Et nous sommes d'ailleurs assis avec Christ dans ce 3e ciel, avec lui, même si vous ne le réalisez pas. Il faut être conscient de notre privilège. Et il y a les gens sur la terre, hein, qui sont des gens communs, ou des rois, ou des princesses, ou des gouverneurs, ou des présidents, etc. Voilà. Et après, il y a 2 autres ciels. Le 2e ciel où Satan était chassé, parce qu'il était chassé. Il y a 1/3 des anges qui sont partis avec lui dans le 2e ciel et qui règnent sur... C'est le prince de ce monde. Et Jésus a dit, c'est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde voulait donner toutes les principautés à Jésus en disant, si tu m'adores, je te donne tout ça. Donc, ça lui appartient au sens où il a une influence sur les hommes. Et il y a le 1er ciel. Le 1er ciel, c'est celui qui est autour de nous, le plus proche, où les démons peuvent rentrer. Les 2e ciel, ils ne peuvent pas rentrer dans les hommes. Ils gèrent des territoires. Mais le 1er ciel, oui, c'est les démons. Et là, on voit beaucoup de démons dans l'Écriture, Jésus chasse les démons, etc. Nous, on peut chasser les démons. Donc, c'est des esprits qui sont attachés à cause de notre péché. Et on pêche tous, on ouvre tous des portes. Donc, ce qu'il s'agit maintenant, pour avoir la faveur de Dieu, pour continuer à avoir la faveur de Dieu, il faut que le ciel ouvert, on le garde ouvert. OK ? Est-ce que c'est clair ? Et comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, le ciel ouvert, c'est qu'on évite que les esprits nous atteignent. Donc, que ce soit des esprits, que ce soit des démons, ou que ce soit des principautés supérieures, des princes. D'ailleurs, dans Éphésiens 6, il y a différentes catégories qui sont mentionnées, hein, un principe des princes territoriaux. Et on le fait par la consécration et la sanctification. Si nous, on se consacre au Seigneur, si nous, on se sanctifie, c'est-à-dire la sanctification, c'est au quotidien, on obéit au Seigneur. Au quotidien, on se débarrasse de toutes les choses qui nous encombrent, de toutes les idoles. Et le travail peut être une idole. Hein. Toutes les bonnes choses sont des idoles, peuvent devenir des idoles. Donc, si on est attaché aux idoles, le ciel se ferme. Si on se débarrasse des idoles, regardez le nombre de fois où les apôtres, Jean, Pierre, disent « fuyez les idoles, fuyez les idoles ». C'est les idoles qui ne peuvent... Dieu ne peut pas supporter les idoles parce que c'est des faux dieux. Ils nous emmènent dans le mur. Le Seigneur veut nous libérer Donc il veut qu'on soit débarrassé des idoles. Et donc si on se consacre, si on se sanctifie de jour en jour, etc., et je vais vous donner quelques exemples de sanctification, eh bien ce ciel va rester ouvert. Et en 98, quand on a vécu des choses difficiles, là c'est Aurélie Vidal, et à l'époque c'est Tom Casalis qui d'un seul coup a vu la main de Dieu se tendre parce qu'elle était partie. Et à partir de là, l'Église a vécu 20 ans de... C'est spirituel, c'est le spirituel qui commande. Il faut qu'on comprenne en tant que chrétien que c'est le spirituel qui commande, c'est pas le naturel. Parce que sinon on est à côté de la plaque, on n'est pas chrétien, on est comme les païens. Donc le spirituel s'y commande, si Dieu nous tend la main, si Dieu nous apporte la faveur, eh bien maintenant il faut qu'on fasse nous bien ce qu'il faut pour que le ciel reste ouvert et que nous voyons, vous savez, des gens vont venir les uns après les autres dans cette église. Hein, parce que quand le ciel est ouvert, je me rappelle, Jacques Effort demandait à prier et puis il a senti les choses ouvertes. Et ben, tous les dimanches, il y avait des gens qui venaient et qui remplissaient l'église. Il est passé jusqu'à 5000 personnes comme membre. On n'est pas aux États-Unis ici, mais voilà, le Seigneur bénit et il sauve des âmes. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des vaillants hommes qui sont des soldats. Éphésiens 6, quelles sont ces armes qu'il faut utiliser d'Éphésiens 6? Bon, ce n'est pas du jeu parce que je vous ai donné toutes les réponses. C'est que des armes défensives, à part l'épée de l'esprit qui est offensive. Toutes les armes sont défensives. Donc voyez-vous, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, dans le monde, on a des armes offensives, on a des canons, etc. Nous, on a des armes défensives. La justice, le casque, la cuirasse, etc. Vous voyez, des armes défensives. Donc vous voyez, on est des soldats, mais avec des armes défensives. Mais qui prient. Souvent, on oublie la fin d'Éphésiens 6, où il dit « prier en tout temps ». Et là, on a dit que c'est les hommes doivent prier. Et c'est les hommes qui les premiers qui doivent montrer l'exemple de la prière. Donc prie de manière offensive. Là, la prière est offensive. Elle est stratégique. En manifestant un caractère forgé par le respect de la parole et des béatitudes. Alors les béatitudes, le Seigneur nous a mis là-dessus dans les réunions de prière ces derniers temps. On a pratiquement fini, on n'a plus qu'une béatitude à voir. Eh bien, ces vaillants hommes doivent mettre en pratique les béatitudes. Alors, je vous ai résumé les béatitudes, enfin pour moi, pour que ce soit plus facile à retenir, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Donc, il y a 7 savoir-être, il y a un savoir-faire et un savoir. Donc, les 7 savoir-être, il faut être pauvre en esprit, il faut être débonnaire, il faut être miséricordieux, il faut être affligé, il faut être affamé de justice, il faut être persécuté pour la justice, il faut accepter d'être insulté, calomnié à cause de Christ. Hello, c'est les vaillants hommes, ça. Vous voyez, on est dans le paradoxe. C'est-à-dire, les valeurs sont inversées. Nous, on pense, ah oui, le chrétien, il est fort de faire ceci, cela. Non, ça, c'est les béatitudes, ce que Jésus a enseigné, la première chose qu'il a fait, il a enseigné à la foule, au moment de son début de son ministère. Alors, 7 savoir-être, 1 savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? La paix. Il faut savoir faire la paix. Oh là là, oh là là. Allez dans les églises, hein, pour faire la paix. Eh bien oui, le paix, parce qu'ils seront appelés fils et filles de Dieu. Vous rendez compte? Vous rendez compte le privilège d'être appelés fils et filles de Dieu si on fait la paix. Vous savez, si ça c'était mis en pratique dans toutes les églises, il n'y aurait que de la paix dans les églises. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus rien. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous avez envie de ça pour cette église? Eh bien, il faut faire la paix. Et si chacun fait la paix, si, d'ailleurs on l'a dit aux gardiens, on dit attention, cette loge doit être une loge de paix. Hein. Parce que la loge, c'est la première qui est attaquée pour essayer de faire du bis-bis, etc. Non, il faut que vous soyez des hommes... Je sens que vous êtes un couple de paix. Mais c'est parce que la béatitude dit il faut savoir faire la paix. Et un dernier, c'est un savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est les béatitudes, hein, vous les connaissez par cœur. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce que je n'ai pas cité? Eh bien, il faut savoir avoir un cœur pur. Le cœur pur, c'est quoi le cœur pur? Oh, tiens, le cœur pur, c'est le cœur de Marie. C'est... Non, le cœur pur, c'est simplement discerner le vrai du faux, le pur et l'impur. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous est donné, à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne de savoir ce qui est pur et ce qui est impur. D'ailleurs, du jour au lendemain, vous écoutez les témoignages, hein, comme moi, bon, vous avez vos témoignages, mais les témoignages de brigands, de gens comme ça, du jour au lendemain, ils savent que c'est pas bien de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dit, quand on est né de nouveau, on ne peut pas pécher. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas. Dans le sens où notre cœur, qui est le cœur de Jésus, eh bien, ne peut pas pécher. Est-ce que Jésus a péché? Bon, ben, si vous avez le cœur de Jésus, vous ne pouvez pas pécher. Vous voyez, donc, c'est le fait de savoir. Bien sûr, après, il faut exercer la béatitude. Il faut la mettre en pratique. Mais vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et là, aujourd'hui, on est dans une période où, en particulier, les parents doivent savoir pour leurs enfants, parce qu'il y a une responsabilité sur les enfants, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on emmène nous et les enfants dans le mur. Bon. Mais ça, c'est une autre prédication qui viendra plus tard. Donc, les béatitudes, ça doit être quelque chose qui doit être mis en pratique. Et là, le ciel reste ouvert, mes amis. Le ciel reste ouvert. Jésus l'a dit. Il a prononcé ses béatitudes au moment du début de son ministère. Alors, revenons au phare. Le phare, la particularité de ce phare qu'on a adopté maintenant, cette image, elle a trois faisceaux. Et ça, c'est important, parce que le phare, c'est l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire être un phare qui éclaire de plus en plus loin. Aujourd'hui, il éclaire déjà, hein, mais de plus en plus loin. Eh bien, il faut qu'il soit trinitaire. C'est-à-dire, il faut que notre foi s'appuie sur l'enseignement de la Trinité, c'est-à-dire que Dieu, il est Père, Dieu, il est Fils, Dieu, il est Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais, vous voyez, c'est ça la Trinité, c'est tout simplement le credo, c'est ce sur quoi notre foi est appuyée. Alors, disons-le ensemble, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Si nous sommes appuyés là-dessus, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, c'est un modèle de fonctionnement. Est-ce que vous croyez que Dieu, il fonctionne bien dans cette Trinité, dans ces trois personnes? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous avez envie de lui ressembler à ce fonctionnement? Alors, eh bien, on va l'appliquer à la famille, à l'Église, si vous voulez bien. Alors, parce que ça s'applique. Vous savez, un modèle, ça s'applique. Moi, j'étais toute ma vie dans l'aéronautique. Si on n'avait pas de modèle, on ne pouvait pas faire voler des avions, ni des fusées, ni quoi que ce soit. Il faut des modèles. Et Dieu a mis en place des modèles, les amis. Et le modèle, c'est la Trinité. C'est la manière dont les trois personnes fonctionnent ensemble. Et ce modèle, c'est décrit dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où vous avez la description de ce modèle. Alors, je vous propose... Ce modèle-là, c'est un vitrail, hein, qui est, parce que depuis 2000 ans, on a cherché des symboles, hein, donc le symbole de la main avec les trois doigts, et puis Jésus qui a la double nature, fils de l'homme, fils de Dieu. Il y a l'agneau, Pascal, qui est Jésus, et la colombe, qui se manifeste par le Saint-Esprit. Donc ces trois symboles, hein, parce qu'on ne peut pas dessiner Dieu. Il n'a pas de visage humain, même s'il peut apparaître, mais voilà, c'est des symboles qui renvoient au Père, au Fils, et entre le Père et le Fils, il y a une relation particulière d'amour entre le Père et le Fils, c'est Jean 17, c'est tout l'enseignement, c'est l'amour qui les unit, et le Saint-Esprit qui a eu un rôle particulier, différent du Père et du Fils, qui est de faire des projets, c'est d'accomplir des projets. Et le projet, c'était après la résurrection de Jésus, c'était de créer l'Église. C'est la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et sur les 3000 juifs qui étaient là. Et c'était quoi l'objectif de l'Église? C'est quoi l'objectif de l'Église? Pourquoi vous êtes là? Pardon? c'est de faire la même chose que Jésus. Hein, c'est ça, c'est la mission. La mission que Jésus a donnée à l'Église, c'est la même qu'il a reçue du Père. Voyez-vous ? C'est simplement une continuité de la mission. Sinon, on ne sert à rien en tant qu'Église. Ça ne sert à rien d'être en Église. Si on ne comprend pas notre mission, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va chauffer des chaises, hein, on n'a pas besoin de les chauffer en ce moment, mais en hiver, on peut chauffer. Non, c'est mission, c'est de faire la mission de Jésus. Sinon, les amis, on ne sert à rien. L'Église ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien dans le plan de Dieu, hein, attention. On peut faire du club, on peut faire des choses, on peut faire du jardinage et tout, mais c'est une mission de Jésus, c'est annoncer l'Évangile. Alors, je propose de présenter comme ça, au lieu du symbole un peu compliqué, je propose avec les trois doigts. Voyez-vous ? Le doigt, les trois doigts, c'est les trois personnes de la Trinité, où l'un, c'est le passé, le présent et le futur. Donc on couvre la totalité du temps qui passe. Il y a toujours un passé. Hein. Nous, on parle du passé de nos parents, nos grands-parents. Il y a toujours un futur, hein, et il y a un présent. On vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 31 août. Demain, on sera le 1er septembre, etc. Il y a un présent continu. Le présent, il continue, mais il y a toujours un présent. Donc ce sont les trois éléments qui sont importants à retenir dans l'action. Parce que je m'intéresse à l'action. Comment la Trinité agit? Et comment nous, on doit agir? Et comment moi, je dois agir? C'est ça qui m'intéresse. C'est l'action. Comme Dieu agit dans ces trois personnes. Donc le passé, il est représenté par le Père. Le Père qui est initiateur du dessein. Le Père, dans sa bonté, il a dit « Je ne veux pas laisser l'humanité mourir, je veux les racheter. » Quand il a vu la chute avec Adam et Ève, eh bien, il a dit « Les anges, ils ne les rachètent pas, hein, attention, hein, les anges ne sont pas rachetés. S'ils sont perdus, ils sont perdus éternellement. » Nous, on a un privilège. Donc, on a une responsabilité. Dès qu'on a un privilège, on a une responsabilité. Et donc, la responsabilité, c'est qu'on doit répondre... Si on veut être sauvé, si on veut être perdu, bon, on ne fait rien et puis on est perdu. Mais si on veut être sauvé, eh bien, on suit le plan, le dessein, on appelle ça le dessein, le dessein de Dieu. Et Dieu, le Père, l'a conçu, bien sûr, en relation avec son Fils et le Saint-Esprit. Mais il l'a conçu. Il porte ce dessein. Le Fils, il est en mission, il a été envoyé. C'est le premier apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé. Donc le Père a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il accomplisse la mission et que lui ne pêche pas comme le premier Adam a péché. Donc il a été tenté, la première chose qui a été faite, c'est tenté comme Adam, mais il n'a pas péché. Donc il a réussi à être cette humanité nouvelle qui ne pêche pas malgré la séduction et la tentation. Et le futur, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit, c'est-à-dire c'est l'accomplisseur du dessein. Il donne la puissance, il donne l'énergie, il donne la force, il donne les moyens, il donne les dons, il donne tout ça, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais nous, vous voyez, j'ai beau vous donner une bêche, si la bêche vous ne l'utilisez pas pour retourner le sol, ça ne sert à rien. Les dons, ils doivent être utilisés. Et Dieu nous donne des dons à l'Église. Il faut qu'on les utilise. Et plus en plus, il faut qu'on utilise ces dons pour glorifier le Seigneur. L'accomplissement du projet. Donc c'est un projet, le projet de rédemption, de rachat de l'humanité, et le résultat de la collaboration entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'amour, dans l'espérance et la foi. Ça, c'est le modèle. Je reviendrai plus tard sur ce modèle, c'est la base. Alors là, on l'a appliqué à la famille. La famille doit fonctionner comme ça si on veut que la famille réussisse, si on veut qu'on réussisse dans le projet familial. Il y en a qui ont des familles ici? Est-ce que vous voulez réussir? Je vous propose le modèle. Qui est basé sur le modèle de la Trinité. Alors, il y a un père, il y a une mère, il y a des fils, des filles, c'est l'héritage. Hein, voilà. Et ce modèle familial a été présenté dès la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, Dieu a dit à l'homme, l'homme déjà ne restera pas seul, je ne l'ai pas fait pour être seul, donc il quittera son père et sa mère, son ancienne solidarité, jusqu'à ce qu'il soit prêt à se marier. Il quittera, il s'attachera à qui ? À sa femme, il s'attache à, il choisira une femme, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront. Quitter, s'attacher, devenir. C'est les trois. C'est exactement la même chose que le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui font dans la Trinité. Sauf que là, c'est un projet de famille. Il est beaucoup moins ambitieux que le projet de rédemption. Mais c'est un projet de rédemption familiale. Si on veut réussir notre... Voilà. Et la différence entre Dieu et la famille et humain, c'est quoi? Est-ce que Dieu a besoin de se reproduire lui-même? Pourquoi? Parce qu'il est immortel, parce qu'il est éternel, etc. Mais l'homme est mortel, donc il a besoin de se reproduire. Donc, c'est de génération en génération ou de père en fils. C'est ça qu'utilise la parole de Dieu. De père en fils, de père en fils, de père en fils. Vous voyez? Donc, c'est la particularité que le modèle, lui, doit se reproduire. Et ça, c'est pas facile, hein, de le transmettre aux enfants qui reproduisent ce modèle-là pour qu'il y ait une continuité. Alors, je reprends mon modèle un peu avec les doigts, passé, présent et futur. Le père, la mère et le fils, c'est une génération qui dure à peu près 25 ans, bon, entre 20 et 30 ans. Et après, les enfants, ils se marient. D'accord ? Donc, c'est la famille générationnelle de père en fils. Et donc, le fils... Il va devenir père. Le fils va devenir père. Et c'est à lui de reproduire ce modèle, s'il veut que ça marche, et s'il veut être dans la volonté de Dieu. Il faut qu'il cherche. Donc le fils va chercher le plan, la face de Dieu, il va se choisir une femme, et ensuite après il va faire des fils, etc. Et c'est donc une nouvelle solidarité. Donc on passe de génération en génération, à peu près tous les 25 ans. Alors on va passer à l'Église. L'Église, c'est pareil, c'est une communauté. Il y a un ensemble de personnes localement. L'Église, elle est universelle, mais en même temps, elle est locale. Et l'Église locale représente l'Église universelle. Donc l'Église locale, c'est un chef, un père, si vous voulez, c'est Christ qui est le bon berger. Amen. C'est Christ qui est le bon berger. Même pour l'Église locale, c'est le bon berger. Ensuite, le fils, c'est le leadership, le berger local, qui est sur terre. Parce que le bon berger, il est dans le ciel. Donc, voilà, on peut le suivre, mais voilà, on peut discuter, que j'entends pas ce qu'il dit, etc. Le berger local, il a la responsabilité, comme le fils, d'être en relation étroite avec le Père, avec Christ. Sinon, c'est pas un berger local. Si c'est un mercenaire, quelqu'un qui fait ça pour l'argent et tout ça, qui s'en va dès qu'il y a des loups, etc., bon, effectivement, il peut pas assumer sa mission. Donc il y a un berger local qui est choisi par Dieu à chaque église locale. Et le Saint-Esprit forge un corps local, une assemblée locale. Là, le Saint-Esprit va reforger une nouvelle assemblée locale. Et c'est à peu près 25 ans. Vous voyez, par exemple, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Chaque génération veut faire un petit peu différemment que les précédents. Nous, on a été amenés ici en 90, mais on a eu 7-8 ans de travaux. Hein, c'était d'énormes travaux qu'on a dû faire. Et donc, on n'a pas pu vraiment évangéliser. On a beaucoup travaillé. On a eu des temps formidables pour ça. Et en 98-99, on a commencé l'Église. Et vous savez, c'est des courbes de Gauss. Hein, ça monte, puis ça descend. Parce que la génération, la première génération, au bout de 25 ans, elle se lasse. Elle veut autre chose. Voilà, elle veut autre chose. Ah oui, on veut de nouvelles choses. Et donc, on appelle ça de la revitaliser. Il faut revitaliser les Églises. Donc, c'est normal. Dans le monde entier, moi, je suis un peu Christian Schwartz. Hein. Comme cadeau, parce que tout le monde en a eu. À l'époque, je l'ai acheté sur mes fonds propres pour donner, distribuer à tout le monde. Christian Schwartz, c'est une expérience de Dieu. Voilà. Et lui, il récolte les informations du monde entier, de toutes les églises qui existent sur la planète. C'est son vocation. Et il a remarqué ça. C'est une constante. C'est pas spécifique à un pays, etc. Donc, la nouvelle génération veut recommencer quelque chose, etc. Donc, si elle ne prend pas la vision précédente, et va changer de vision. Et en fait, ça va se perdre et ça va mourir. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous commençons une nouvelle étape avec la génération, c'est pas la Z, mais c'est la génération 2025, où maintenant, eh bien, au fur et à mesure que les chrétiens viennent, on va leur enseigner la vision, on va leur dire ce que c'est que le phare, etc. Pour qu'ils puissent l'adopter et refaire comme une génération, parce que ça fait 500 ans que le Seigneur a demandé un phare. Vous allez à vos légnos, ça fait 500 ans, avec Jacques Spiffam, je vais y arriver, Marga, etc., des leaders qui ont été... Et il y a encore le témoignage de ces chrétiens qui ont commencé il y a 500 ans pour être le phare. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur veut qu'on continue dans cette même vision qu'on va essayer de produire. Amen. Alors je reviens, donc là c'était un peu une aparté, je reviens aux vaillants hommes et aux femmes courageuses. Parce que les vaillants hommes ont besoin de femmes courageuses. Oui. Donc les vaillants hommes qui ont à leur côté des femmes courageuses. Donc il y a à nouveau les trois éléments, hein, le père ou l'époux, la mère ou l'épouse, et le projet familial. Et donc, le père, la mère, eh bien, ils produisent le projet familial dans l'union conjugale ou l'union du mariage. Ils sont tous les deux associés vers un projet. Ils sont orientés vers un projet. Sinon, ce mariage va être stérile, s'il n'y a pas de projet. Donc, quel est le projet ? Et c'est ça. Et Michel et moi, on s'est mariés sur cette base-là. Quand j'ai rencontré Michel dans le métro, j'ai distribué des tracts, j'ai rencontré. Voilà. On allait dans la même église, dans la même direction. Et puis le vendredi, puis le lundi, on a commencé un stand biblique à Sancier. On s'est fait taper dessus, cracher dessus et tout, parce qu'à l'époque, c'était 68. Mais on était dans le feu de l'action. Et depuis, on reste fixé sur un même projet de servir le Seigneur et puis de faire avancer son royaume. Voilà. Et là, le Seigneur est avec nous parce que c'est son projet à lui. Et c'est le Saint-Esprit qui va, comme on appelle ça aujourd'hui, enhance, le mot enhance en anglais, c'est abonder. C'est-à-dire, il abonde. Et nous, on fait, mais lui, il abonde. Et il apporte le plus. Et en fait, c'est l'image de la voile, vous voyez. La voile, il faut la tirer. On a des rames, mais la voile, quand on l'étend, eh bien, le Saint-Esprit souffle. Et donc, c'est beaucoup plus efficace quand il souffle. Mais si on laisse la voile en bas, on va ramer. Et donc, cette image aussi va nous parler de quand on va commencer à partager la vision. Alors, il y a des forces et des faiblesses. Parce que Dieu a fait l'homme différemment de la femme. Il y en a qui s'en sont aperçus déjà. Que l'homme n'est pas pareil que la femme. Ça ne fonctionne pas pareil. Ça ne fonctionne pas pareil. Mais c'est voulu. C'est voulu. Mais regardez, le père, c'est pas le fils. On l'a dit tout à l'heure, le père n'est pas le fils, le fils n'est pas... Parce que chacun a un rôle, chacun une fonction, etc. C'est le modèle même de Dieu. Et là, Dieu, il a fait l'homme. Il a dit, l'homme ne peut pas être seul. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas pris de terre, il a pris son côté. Vous savez, dans la parole de Dieu, tout a un sens. Hein. Adam était fait de la glaise, ça s'appelle glaise, Adam, c'est de la terre. Mais ensuite, la femme a été prise de son côté. Et de son côté, ça veut dire qu'il y a une complémentarité à refaire pour qu'ils deviennent un. Et c'est pour ça qu'il s'attachera, deviendra. Et donc il y a des forces et des faiblesses, puisqu'il y a des choses que nous on n'a pas et que les femmes ont et que les hommes n'ont pas. C'est pour ça que dans le mariage, il faut travailler ensemble. Il faut l'intersoumission. Vous savez, celui qui a fait les versets, c'est un moine, je ne me rappelle plus quel moine, a fait les versets. Il a très très mal fait Éphésiens 5, parce qu'il a dit « Soyez soumis les uns aux autres », et puis il a changé le verset « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est complètement faux. C'est virgule, soyez soumis, virgule, exemple, femme. Mais c'est un exemple. Tu vois, l'intersoumission, c'est pas que la femme qui doit être intersoumise, c'est tout le monde doit être intersoumis entre nous, et surtout dans l'Église, une intersoumission. Le pasteur doit être soumis aussi au corps de l'Assemblée pour pouvoir en tenir compte, etc. C'est une collaboration. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit collaborent. Et donc, on le retrouve dans le mariage, avec des forces et des faiblesses. Et je vais juste évoquer quelques forces et quelques faiblesses pour vous donner une idée de ce que je pense. Donc l'homme vaillant, en fait, c'est l'époux et l'épouse, ils se marient, voilà. Il y a la femme qui doit être soumise, et ensuite après, c'est l'homme qui doit être soumis à la femme, etc. Et ça tourne. L'avantage de l'homme, enfin, la capacité de l'homme, c'est de saisir la vision. Là, c'est le phare, mais ça peut être une vision du projet familial, etc., de manière analytique. Il a un cerveau analytique, c'est-à-dire qu'il peut analyser. Moi, je peux analyser des choses, Michel, elle ne suit pas, bon, c'est pas grave, moi, je lui explique. Voilà, parce que l'analyse, c'est la particularité de l'homme. Alors attendez, je ne fais pas un cours de psychologie là, parce qu'après, il y a des overlaps, ce qu'on appelle, hein, il y a des femmes qui sont un peu plus... Bon, parce que, voilà. Mais globalement, c'est ça, l'homme a cette capacité d'analyse. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est sensible à l'esthétique, il est sensible à l'apparence. Et donc, cette faiblesse l'entraîne à un aveuglement sur son analyse. C'est-à-dire l'analyse en elle-même n'est pas une fin en soi, n'est pas le Graal qu'il pense avoir, et c'est ça le danger. C'est que s'il n'est pas soumis à Dieu, eh bien, il va se planter dans son analyse. Parce qu'il va être sûr que, oh, rationnellement, je pense ça, etc. Voilà, etc. Donc ça, c'est l'homme. Hein, voilà. Eh bien, il va se planter s'il n'est pas soumis à Dieu et pas soumis à sa femme, qui, elle, a une capacité, c'est de voir globalement. Et de voir globalement. Elle saisit les choses globalement. Déjà, le fait d'avoir un bébé dans son ventre, tout ça, c'est global. Elle ressent des choses. Elle le ressent dans son ventre, etc. Elle est faite comme ça. Elle ressent les choses. Oh, je sens, moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent dans l'église, tout ça, elles ressentent des choses, etc., beaucoup plus que les hommes. Elles sont faites comme ça. C'est tout. Il faut l'accepter. Et c'est Dieu qui l'a fait. Donc, ça, c'est un point. Ça passe par l'analyse. Ils saisissent, voilà, le phare, ouais, ils saisissent, voilà, que c'est un phare, et puis on ne discute pas, on y va, etc. C'est très bien. Mais c'est quoi la faiblesse? C'est qu'elle est sensible au biais cognitif, ça veut dire l'erreur. Elle est sensible à l'erreur. Parce que l'ennemi, Satan, il est rusé. Jésus a dit il est rusé. Donc il arrive à faire miroiter un argument. Hein, oui, est-ce que Dieu a vraiment dit? Voilà. A vraiment dit, je ne sais pas, vraiment dit. Bon. Et Ève s'est fait avoir comme ça. Elle a dit, mais non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, regarde, etc., tu ne vas pas mourir. Voilà. Donc, elle est sensible au biais cognitif et ça entraîne une déviation de son jugement. Donc, son jugement qui est global, eh bien, s'entraîne. Et donc, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, il faut échanger. Et en échangeant, eh bien, on arrive à faire face à l'ennemi. Moi, quand avec Michel, j'ai fait le tour des États-Unis après mon service national. On s'est arrêté au Texas, Puis au Texas, on a rencontré une famille pastorale super. La femme, elle chassait le caribou et elle remplissait ses congélateurs en été. Il achetait jamais de viande. Il vivait que sur la chasse qu'il faisait. Et il a dit, nous, on a deux chats, si à moi, et on a beaucoup de serpents. Eh bien, il y a un chat qui se met devant le serpent, puis l'autre qui passe par derrière, puis il le chope. Vous voyez, ils sont deux. Vous voyez, il y en a un qui l'attire et l'autre qui le chope. Il faut être à deux. D'ailleurs, le privilège d'être à deux, c'est beaucoup magnifié dans la parole de Dieu. Et là, en particulier, entre l'homme et la femme, c'est important. Mais bon, on reviendra éventuellement sur ces enseignements qui, je vous les lance un petit peu rapidement là-dessus. Je prends juste trois exemples pour vous montrer des exemples de mariages qui ont réussi. Pour ceux qui veulent réussir un mariage, je vous propose ces trois personnes, enfin les six exactement. C'est Boaz et Ruth. Alors Boaz et Ruth, Boaz choisit Ruth, la veuve, elle est veuve, comme épouse, qui vient de glaner dans les champs, bien qu'elle ne soit pas israélite. C'est une étrangère. Alors là, c'est totalement interdit en Israël. Et pourtant, il le fait. Bon, il utilise des arguments de droit. Enfin, lisez le texte. Je ne vous ai pas mis la référence, mais c'est facile à trouver. Il utilise le droit pour qu'il puisse le faire. Voilà. Mais il choisit Ruth. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle est ? Ruth, c'est une convertie. Elle est une moabite, hein, elle n'est pas israélite, qui s'attache aux valeurs du judaïsme. Et elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Du roi David, c'est marqué là, et de Jésus. Donc elle est dans la lignée de Jésus. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Or, elle n'était pas israélite, elle n'était pas juive. Mais elle a décidé d'être juive. Donc vous voyez, c'est déjà une femme courageuse qui décide d'aller à l'encontre de toutes les critiques, etc., et qui va, enfin c'est formidable de lire ce passage, elle va dans ce champ, et elle espère effectivement que Boaz la prenne, mais rien n'était sûr. Deuxième, donc, c'est une femme courageuse, et c'est un homme vaillant, parce qu'il brave en fait tout l'interdit a priori, mais il n'est pas devenu interdit, parce que il s'est harnaché pour trouver la solution pour la marier. Deuxièmement, David. David, alors Abigaël, il faut mettre les deux en même temps, parce qu'en fait, David, il y a plusieurs femmes, Rachel et autres. David a reçu les avertissements d'Abigaël. Alors, Abigaël est la femme de Nabal. C'est un riche marchand. Elle devint l'épouse de David après la mort de son mari. Elle fut mère de l'un des fils de David. C'est pas Salomon, mais c'est un autre. Afin d'éviter que David ne songe à se venger, parce qu'il a fait vraiment des crasses, Nabal, à David. Hein. Et David était prêt à se venger contre Nabal. Et Abigaël est allée voir le roi, hein, alors qu'il était rien, c'était un marchand, hein, la femme d'un marchand, est allée voir, et elle a plaidé la cause de ne pas faire ça, que David ne fasse pas ça. Et si David l'avait fait, alors David, il a dû être persuasif, hein, de dire non, ne frappe pas David, et toutes ces, voilà, il voulait frapper tous ses descendants, etc., vu ce qu'il avait fait Nabal. Il a dit, ne fais pas ça, parce que tu vas perdre le trône. S'il n'avait pas écouté Abigaël, David ne serait pas monté sur le trône d'Israël. Vous rendez compte, cette femme courageuse qui est allée voir, défier le roi, pour le mettre en garde de l'erreur qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce que c'est encore différent de l'erreur de... Mais j'ai pas le temps de rentrer dans ça. Et David l'a pris pour femme. Et elle lui a donné des enfants qui font partie de la lignée de David. Joseph, incroyable, comme vaillant homme. Il est présenté comme un homme juste dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de marier, enfin parce qu'il était fiancé, Marie. Et son enfant, Jésus, qu'il a reçu du Saint-Esprit, et c'est un ange qu'il est apparu. Parce que lui, c'est un homme droit, un homme juste, un homme qui ne voulait pas dévier de la parole. Et pour lui, il ne pouvait pas marier Marie, parce que Marie avait un enfant, certainement d'un autre homme, voilà. Parce que croire que c'est du Saint-Esprit, ben, ce n'était pas possible à l'époque. Hein, c'était, voilà. Même aujourd'hui, à l'époque, il y en a qui ne croient pas. C'était forcément un mariage qui ne pouvait pas se faire. Donc, il était décidé de ne pas la marier. Et c'est un ange qui est venu le voir. Vous voyez, c'est un homme juste. Quand Dieu veut quelque chose, il prend tous les moyens pour vous parler. Et il a dit, non, tu l'épouseras, parce que cet enfant était conçu par le Saint-Esprit. Donc, c'est un homme courageux, qui a dû obéir à un ange contre tous les quolibets qu'il a dû avoir par ailleurs. Hein, et ils ne se sont pas cachés de le mener en bateau avec l'enfant Jésus. Et Marie, elle est la servante du Seigneur. Elle brave les critiques de son temps concernant sa relation avec Joseph. Elle élève Jésus tout en étant soumise à Joseph. C'est une femme de valeur, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui effectivement donne l'exemple d'une femme qui est soumise au Seigneur et aussi à Joseph, qu'elle a ensuite après épousé. Et ils ont fait des projets ensemble, ils sont allés en Égypte, ils sont revenus, etc. Des choses formidables. Voilà. Je termine en en vous donnant le défi de cette Église pour l'année qui démarre. Et on va la démarrer en fanfare, en trompette, en septembre. Ouvrir cette année avec un défi. Et je vous propose ce défi, si vous voulez bien l'accepter en tant que communauté. Le défi, c'est de former des vaillants hommes pieux qui prient, aptes au combat spirituel. J'ai effleuré rapidement le combat spirituel. Les hommes peuvent peut-être plus facilement comprendre ça que les femmes, bien qu'eux. Ayant le caractère de Christ, conformément aux béatitudes. Donc les 9 béatitudes, faudra que ces hommes, les autres c'est facultatif, mais ces hommes-là doivent les connaître par cœur. Parce qu'il faut les appliquer. Comme l'a dit Elisabeth, c'est plus difficile de les appliquer. Mais oui, mais si on veut des vaillants hommes, il faut que ces vaillants hommes les appliquent. Et c'est contraire, c'est paradoxal, c'est contraire à la nature. La nature d'un homme, c'est mesurer sa force, faire des bras de fer, etc. Non, là, c'est être affligé, accepter l'affliction, accepter la pauvreté spirituelle pour devenir grand dans le royaume, etc. Donc, on va méditer ces béatitudes pour que chaque homme vaillant, de ceux qui veulent devenir vaillants pour le Seigneur et pour le roi David, qui est maintenant assis sur le trône, puissent devenir ces hommes vaillants. Et à leur côté, on ne va pas oublier les femmes, à leur côté, on va former des femmes courageuses qui les aident dans leur mission commune. C'est une mission qui est partagée entre les hommes et les femmes, c'est la mission de la communauté. Mais que les femmes puissent les aider. Et je pense que si les femmes les aident, c'est plus facile pour les hommes de le faire. Vous voyez, si les hommes sont encouragés, ah oui, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que ceci, ça veut dire des petites choses. Moi, je suis très content du choix qu'on a fait d'Elim, parce que depuis 40 ans maintenant que je suis dans le ministère, CCY, Fédération Baptiste, j'ai jamais vu une union d'église qui prie autant. J'ai jamais vu. Fantastique. On prie le mardi matin, on prie le vendredi matin, à 6h, 5h55, faut se lever, jusqu'à 6h15, Charles est toujours là, etc. Voilà. Et tous les pasteurs, enfin tous les pasteurs, on n'est pas très nombreux, mais tous les pasteurs prient. Et vous voyez, ça, je trouve que effectivement, ça rentre là-dedans. Et moi, je suis très content parce que ça encourage. Et moi, ça m'encourage parce que me lever à 5h50, bon, Charles, ça va, il a pris l'habitude. Il prie depuis tout le temps, il prie très tôt la nuit. Bon, formidable. Mais moi, il faut que j'aie le réveil, sinon ma montre, elle me réveille. Mais vous voyez, il faut des hommes qui prient. Et qui soient aptes au combat spirituel, qui savent combattre spirituellement, qui ont le caractère de Christ. Et je crois savoir que Gilles va parler du caractère. Il est porté sur le caractère. Il faut un caractère. S'il n'y a pas le caractère de Christ, on ne peut pas tenir dans les combats. C'est pas possible. Parce que l'ennemi va tout faire pour le décourager. Mais s'il faut le caractère de Christ, on tiendra. Et avoir des femmes courageuses à côté, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous poussent, qui nous encouragent. Et voilà, qui ne nous décourage pas, comme la femme de David qui l'a découragé parce qu'il a dansé, etc. Mais même si les femmes ne m'encouragent pas, Wesley, j'admire cet homme, là, Wesley, il est là, là-haut. Il a eu pendant 100 ans un réveil, il a fait durer un réveil pendant 100 ans. C'est jamais vu ça, 100 ans. Et sa femme se mettait au premier rang. Et elle se moquait de lui en permanence pendant qu'il prêchait. Mais il n'a pas tenu compte. Et là, il a eu un courage incroyable. Du coup, elle s'est lassée, elle est restée chez elle après. Mais c'est mieux s'il y a des femmes qui encouragent, parce que ça aide à tenir le coup dans les combats. Amen. Et pour glorifier Dieu à toujours. Amen. J'ai terminé par la prière. Seigneur, merci de ce que tes plans sont parfaits, de ce que tes plans, Seigneur, sont de nature à pouvoir être mis en pratique, parce que toi-même, Seigneur, tu agis de cette manière-là au sein de la Trinité. Et Seigneur, tu veux nous entraîner, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, que ce soit même dans la société, Seigneur, dans cette même dynamique d'action, Seigneur, où nous travaillons ensemble, Seigneur, à l'établissement de ton royaume, où nous sommes intersoumis les uns aux autres, où nous travaillons pour la paix, où, Seigneur, nous mettons en pratique toutes ces béatitudes, Seigneur, que tu as prêchées avant même le début de son ministère. Seigneur, aide-nous pour cette nouvelle année qui vient, afin que nous puissions, Seigneur, mettre en œuvre, Seigneur, ce défi, Seigneur, que nous puissions en tout cas commencer à le mettre en œuvre, Seigneur, parce que c'est un travail long, mais Seigneur, avec toi, nous pourrons faire des exploits. Et tu vas lever des hommes vaillants dans cette Église, Seigneur, et des femmes courageuses qui les aident pour que, Seigneur, nous puissions voir ce phare, Seigneur, s'étendre, Seigneur, jusqu'au fin fond de cette Sénéoise, de cette région, Seigneur, où, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, amener les âmes à te connaître. Seigneur, merci, parce que c'est ton plan. Et nous savons que tu vas pouvoir le réaliser si tu trouves des hommes et des femmes fidèles à toi, Seigneur. Que nous puissions laisser de côté tout le passé, Seigneur, même s'il a été difficile. Seigneur, peu importe, toi, tu es toujours dans le futur. Tu es celui qui est dans l'espérance, Seigneur, dans le renouveau, parce que, Seigneur, tu as vaincu la mort. Et Seigneur, nous sommes dans la résurrection de la vie. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et nous te remercions pour ce défi que tu nous donnes et pour l'accomplissement que nous allons voir. Nous te remercions et te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'invite les personnes pour la distribution à venir.
Père, à la croix, tu as tout accompli. Tu as, par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris, ô Éternel. Et c'est grâce à ce sacrifice qu'aujourd'hui, nous soyons là, ô Éternel. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur, que nous sommes un peuple libre, ô Éternel. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Merci pour cet amour infini. Merci pour cet amour inconditionnel, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, ô Éternel, que toute la terre, Seigneur mon Dieu, que tous les genoux fléchissent devant toi, que tous les hommes et les femmes, Seigneur mon Dieu, se lèvent pour te glorifier, Seigneur, parce que nul n'est comme toi. Seigneur, tu demeures fidèle et nous voulons te glorifier au siècle des siècles. Amen.
Oui, Seigneur, merci pour ce moment précieux que nous partageons, Seigneur, ce moment de communion. Merci, Seigneur, parce que ce moment nous permet de nous rappeler vraiment ce que tu as fait pour nous, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix, d'avoir donné ton corps, d'avoir donné ta vie, ton sang, Seigneur, pour nous. Rappelons-nous vraiment que tu es et tu dois toujours demeurer au centre de nos vies, au centre de tout ce qu'on fait, au centre de toutes nos décisions, Seigneur. Et vraiment apporter notre regard toujours sur toi, Seigneur, ce que tu as accompli et ce que tu continues d'accomplir aujourd'hui encore. Merci, Seigneur, pour la croix. Amen.
Je vous invite à vous lever, à prendre les éléments et à les garder jusqu'à la fin. Quand tout le monde aura été servi, nous les prendrons ensemble. L'apôtre Paul, aux Philippiens, d'y rendre ma joie parfaite en vivant en plein accord. Voyez-vous, on revient au travailler la paix, en vivant en plein accord. Ayez un même amour, ayez un même cœur, ayez une unité de pensée, et entre autres une unité de vision. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voyez-vous, c'est une manière d'illustrer cette intersoumission où on regarde l'autre supérieur, non pas parce qu'il va me commander ou être supérieur à moi, mais lui va aussi me regarder supérieur à lui. Vous voyez, j'ai pas eu le temps, bien sûr, de développer toute cette harmonie dans la Trinité où il y a une sorte de gloire qui se manifeste au travers de cette intersoumission, de ce respect mutuel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est absolument extraordinaire quand on essaie de comprendre comment Dieu lui-même, il développe cette harmonie au travers de lui et qui se répand dans l'univers tout entier. C'est ce qui va se passer dans cette assemblée, cette Église, si nous faisons de même cette intersoumission réciproque de ce fait qu'on regarde l'autre supérieur, l'autre ne se regardant pas supérieur, mais regardant l'autre supérieur. Vous voyez, c'est cette dimension du respect de l'autre et de la dignité de chacun qui va faire en sorte que les gens du monde vont venir ici, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous vivez? Vous voyez, c'est ça qu'il faut. On ne va pas les assommer avec la mitraillette, on va simplement les attirer par l'amour qui se manifeste. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, merci Seigneur de ce que tu nous unis dans cette dimension de ce corps pour lequel tu as donné ta vie. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, prit le pain et il a remercié Dieu. Et il a dit, prenez-en manger, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites-le en mémoire de moi. Prenons ensemble ce corps qui a été rompu. De même, après le repas, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon propre sang. Faites-le en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble cette coupe. Voilà, je vais demander au Seigneur sa bénédiction sur chacun de nous dans notre retour. Pour ce qui me concerne, donc, je vais être remplacé par Charles. S'il y a quelque chose, vous adressez à Charles pendant cette période pour qu'on soit un peu tranquille, Michel et moi, et qu'on puisse se détendre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Recevons la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accompagne tout au long de cette semaine et qu'il t'accorde sa paix dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour à chacun et à bientôt.